Comment osez-vous ? Podcast. Et vous ? Comment osez-vous ? Ce podcast mettra en lumière des personnalités locales qui vivent près de chez moi, en Bretagne, des personnalités bretonnes, d'ici ou d'ailleurs, et pourquoi pas aussi des personnalités nationales situées au-delà. Leur point commun, avoir osé, à leur manière, de manière singulière ou tout simplement de façon touchante. Je retrouve l'interview longue, celle qui donne le temps, qui donne le micro à celles et ceux qui entreprennent différemment. Celles et ceux qui ont décidé de s'exposer autrement, qui ont eu une idée osée, une idée salvatrice pour eux-mêmes et pour d'autres. Oser avec des guillemets, car ce que je trouve osé n'est pas forcément osé pour d'autres et vice-versa. Chacun a ses définitions du verbe oser. Et c'est pour cela que nous rencontrons, à travers ce podcast, diverses formes, diverses expressions. Pourquoi le verbe oser ? Peut-être parce que, comme l'annonçait Simone de Beauvoir, exister, c'est oser se jeter dans le monde. Sans doute parce que, comme sûrement les invités de ce podcast, selon moi, exister, c'est pousser des barrières, donner une contenance à sa vie. Exister, c'est se jeter d'une manière ou d'une autre. Oui, exister, c'est sûrement oser. Je suis Stéphanie, créatrice aujourd'hui de Poséo, création de podcasts portraits sonores pour professionnels et particuliers, et aussi réalisatrice de Comment osez-vous, ce podcast breton. Mon intervenante pour ce second podcast s'est lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques années et a aujourd'hui de nombreuses casquettes qui se déploient sous différentes formes sur le terrain. Clémence Aurore, vitréenne, est coach, formatrice, facilitatrice, metteuse en scène. Le point commun de ces casquettes, oser la parole et la confiance, et puis surtout donner l'envie d'oser. Clémence Aurore est tout à fait liée au thème de ce podcast. Oser est un terme très présent à travers ces différentes propositions. Osez être vous-même. Osez vous exprimer. Osez raconter son histoire. Osez sa voix. Osez s'affirmer en tant que femme. Osez la parole. Clémence Aurore affirme « Oser, c'est faire un pas de plus vers ses envies. Oser, c'est aussi saisir l'opportunité. Oser être au centre. Rencontre. » Clémence, bonjour. Clémence Aurore, bonjour à toi.
Bonjour. Alors,
bonjour Clémence. Tu es actrice du territoire, je pense. On te connaît bien du côté de Vitré et des alentours. Et je pense qu'on t'identifie en tant que personne qui ose prendre la parole et qui aide les autres à prendre la parole. Donc, et le thème aujourd'hui du podcast, ça va être oser la prise de parole, oser prendre la parole ou oser tout court aussi, oser prendre confiance. Et je pense, Clémence, que tu agis dans ce sens auprès des autres. Donc le verbe oser, est-ce qu'il a une signification particulière pour toi pour commencer ? Grande question, très générale.
Super. Déjà, merci pour ce retour parce que si c'est comme ça qu'on me perçoit, je suis super contente. Parce que c'est à peu près la seule chose dont je sois sûre, c'est que c'est enthousiasmant de voir les autres oser. De se dire, tiens, peut-être que parce qu'il y a eu cette remarque ou ce soutien, ces gens-là ont osé faire des choses qu'ils avaient en eux et qu'ils n'avaient pas encore réalisées. Et donc moi j'ai l'impression que oser c'est faire un pas de plus vers ses rêves, vers ses envies, vers des choses qui sont pas toujours dans l'action, dans la réalité, mais qui sont potentiellement juste tout près de nous. Il suffit de déclencher l'action.
Exactement. Donc
potentiel, pardon.
Oser, donc le verbe oser te parle évidemment, puis sur ton site internet, hein, j'ai voyagé sur ton site. Alors Clémence, tu es coach, on travaille également pour les nouvelles oratrices, on va en parler un petit peu plus tard, mon job de sens, metteuse en scène, c'est l'univers de la parole, tout ça.
Ouais, y a beaucoup de choses autour de la parole, en effet, la parole et de prendre sa place, de trouver sa juste place. Donc il y a des citations sur mon site qui vont un peu autour de ça, qui tournent autour de cette idée. Il y a notamment, mais j'ai plus l'auteur en tête, mais peut-être que toi tu sais, il y a une citation autour de l'idée que s'il y a un endroit où tout est possible, c'est bien sur une scène de théâtre. C'est Huysmans, je crois. Et donc le théâtre, c'est un super endroit pour oser des choses en se disant « Allez, c'est pas la vérité, j'ose pour de faux, mais tout ce qu'on a osé au théâtre, c'est de l'avance qu'on prend pour oser dans la vie.
Oui, je pense que le théâtre, d'ailleurs, c'est vraiment un très bel exercice pour répéter ce qu'on souhaite réaliser aussi dans la vie ensuite. Alors, oser être vous-même. Donc ça, c'est quelque chose que tu utilises, par exemple, sur ton site internet. Oser travailler en équipe différemment pour tes formations, ta facilitation. Oser vous exprimer artistiquement. Tu organises des stages artistiques et des ateliers. Oser être vous-même dans le cadre du coaching individuel. Et puis, oser mettre en mots vos grands moments pour les événements et les cérémonies. Donc, oser travailler, oser être soi-même, oser travailler en équipe, oser s'exprimer artistiquement. Oser être plus en confiance, oser aller vers les autres, être avec les autres, en gros.
Oui, finalement, arrêter de se brider ou de se censurer, hein, parce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là. De l'autre côté, de oser, j'imagine que si j'ose pas, c'est que je suis en train de me surveiller, me contrôler, me censurer. Ça ne ressemble pas à un endroit sympa, ça ne ressemble pas à un endroit de liberté. Donc comme la liberté, c'est quelque chose d'important pour moi et que ça se manifeste beaucoup par le mouvement, la liberté de mouvement et la liberté de parole, c'est là qu'arrive l'idée d'oser. Et c'est vrai que tous les stages que j'ai pu animer, les stages artistiques, et c'est là qu'on se rejoint complètement, notamment, tous les stages artistiques commencent par le verbe oser. Donc oser chanter sur scène, oui. Oser raconter son histoire.
J'ai d'ailleurs participé à un de tes ateliers en collaboration avec une... Tu étais en collaboration avec une chanteuse professionnelle, c'était « Oser chanter sur scène ».
Tout à fait, je me souviens très bien de ta chanson.
Oui. Et donc, et c'était une belle collaboration, je trouve, que tu as effectuée aussi. Et c'était... j'ai trouvé vraiment ça génial. C'est-à-dire que notre chanson était prise en compte. On la citait théâtre allemand aussi, si je peux dire ça comme ça. On l'a travaillé. On travaillait les émotions de la chanson. On travaillait notre posture.
Travaillait sur la voix.
Et puis la voix aussi. Et donc, c'est un très très bon travail qu'on retrouve aussi dans le cadre des nouvelles oratrices, la posture, la voix.
Ouais.
J'ai fait les nouvelles oratrices aussi.
On s'est vu sous plusieurs casquettes, mais c'est vrai qu'il y a une cohérence. Hein.
Ouais, et voilà, il y a une cohérence entre tout ça, il y a vraiment ce fil rouge. Et alors toi, le déclic, pourquoi tu t'es dit un jour, ou peut-être que ça s'est réalisé en plusieurs étapes, mais je souhaiterais aider les autres à oser, je souhaiterais travailler dans le domaine de la parole, de l'expression orale, de la confiance en soi, travailler avec l'humain en fait.
Ça s'est fait en plusieurs étapes et c'était pas très clair pour moi. C'est plutôt, ça s'est fait en marchant et finalement c'est pas mal, ça rejoint pas mal l'idée des petits pas. Tu sais, souvent, quand on n'ose pas, on se dit ça pourrait être quoi le premier pas ou le premier petit pas. Moi j'ai fait plein de petits pas, je savais pas où ils me menaient et c'est là que je suis arrivée. Mais d'une manière un peu globale, je me rends compte que j'étais une ancienne très timide et que j'osais pas prendre la parole. Que si jamais toute la classe me regardait en primaire, je devenais toute rouge immédiatement. Et que donc, quand j'ai compris, à travers le théâtre notamment, comment faire pour que ce soit plus simple, je me suis dit, c'est trop magique, il faut que je partage ça avec d'autres. Donc ça fait partie du fil rouge. Mais au début, pour moi, c'était beaucoup plus simple d'oser prendre la parole en tant que personnage, ou en écrivant des textes, ou que en tant que moi-même. Donc tout le chemin, ça a été d'oser, en tant que Clémence Aurore, faire les choses que j'osais faire en tant que personnage avant et d'en tirer des leçons pour accompagner les autres ensuite. Mais c'est beaucoup la vie qui m'a donné l'occasion de faire tout ça. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des Nouvelles Oratrices, qui est une entreprise basée à Rennes et qui accompagne à la prise de parole. J'ai rencontré cette entreprise par hasard dans un café où je prenais un café en pensant à mes activités et où elles parlaient de leurs activités et on s'est dit faudrait peut-être qu'on travaille ensemble, mais c'était pas planifié, quoi. Oser, c'est pas mal aussi. Oser saisir l'opportunité, peut-être.
Oser saisir l'opportunité, ça c'est aussi une belle phrase parce qu'il y a certaines opportunités qu'on n'arrive pas toujours à saisir, on n'avait pas vu, on n'avait pas remarqué.
On se sent pas à la hauteur, il y a voilà, souvent ça aussi. Et là reviennent les freins dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que moi j'aime bien l'idée que finalement si la porte s'est ouverte au moment où je passais, c'est qu'il faut oser l'apprendre.
Alors, il y a eu cette période de transition, c'est le théâtre, en fait, qui t'a révélé, entre guillemets, d'abord, assez tôt, dans ton enfance ou ton adolescence ou jeune adulte ou plus tard.
Alors, en fait, moi, j'ai fait des études plutôt une terminale L, des études autour des lettres, au début et ensuite de la communication parce que les mots m'intéressaient. Et je faisais du théâtre depuis la cinquième exactement.
D'accord.
Et donc révélation en cinquième, mais je pensais pas que ça pouvait avoir un lien avec mon métier. Parce que là, c'était rêver un peu trop haut par rapport à ce que j'imaginais possible. Et donc, ben, communication d'un côté, théâtre en fil rouge de l'autre côté. Et puis finalement, ensuite, plusieurs métiers autour d'abord de la communication, ensuite de la gestion de projet, ensuite des rôles de consultante dans des projets beaucoup à Paris. Et le point commun, finalement, ce qui restait la chose fixe dans ma vie, ça a été d'abord de jouer au théâtre et ensuite de mettre en scène et d'écrire. Et de faire la prof de théâtre. Quand je dis de faire la prof, c'est parce qu'au début, je me disais, suis-je bien légitime pour être une prof de théâtre ? Mais j'ai osé dire oui quand on m'a proposé des remplacements, quand on m'a dit bah si, tu pourrais sûrement le faire. Et ça m'a laissé penser que je pouvais accompagner des gens. Et donc au moment de changer de métier, quand j'en ai eu marre d'être une consultante qui allait d'entreprise en entreprise à Paris, c'était une option qui s'était ouverte à travers la pratique. Donc à nouveau, je ne m'étais pas dit qu'est-ce que je ferais plus tard. Je me suis rendu compte de ce que j'avais déjà fait, presque sans m'en apercevoir, en acceptant les invitations des gens qui m'avaient dit si tu osais, nous, on croirait en toi.
Je voulais te poser cette question. Ta première action qui, toi, t'a semblé « oser », entre guillemets. On a parlé, par exemple, « oui, j'ai accepté pour les nouvelles oratrices. J'ai dit oui pour les remplacements de théâtre. » Mais est-ce qu'il y en a une autre que tu as en tête ou une action que tu ne regrettes pas d'avoir faite, une action que tu as osée?
Ben, en fait, quand on entend « oser », on entend aussi le côté « oser » un peu « olé-olé » ou « coquin ». Et
oui.
Donc quand tu me poses cette question, j'ai l'impression que là où j'ai le plus osé, c'est quand j'ai entraîné les comédiennes avec qui je travaillais dans un stage d'effeuillage burlesque.
D'accord.
Et qu'il a fallu que toutes, on ose aller dans un domaine qui n'était pas le nôtre. Et bon, comme c'est burlesque, c'était comique. Mais finalement, il a fallu que toutes, on joue le jeu. Et donc pour moi, le plus osé de tout ça, c'est d'oser avoir joué ce rôle-là ensuite sur scène. Avec les comédiennes que j'avais entraînées là-dedans. Parce que c'est pas tout de dire « je suis la metteur en scène, allez-y », mais de temps en temps, il faut être avec elles.
Ah oui, donc
aller s'exprimer dans des domaines qui sont pas les miens au départ, avec des boas, des plumes et...
Sortir de sa zone de confort.
Complètement. Mais ça vaut le coup, parce qu'en fait, moi, je fais pas de saut en parachute, mais c'est aussi le fait d'aller à un endroit où on n'est pas sûr de savoir comment ça va se passer, mais on fait confiance.
Aujourd'hui, est-ce que tu es aussi encore comédienne sur scène ? Est-ce que ça t'aide encore ?
Alors, depuis la cinquième, donc, et la découverte du théâtre sous plusieurs formes, j'ai toujours pratiqué d'une manière ou d'une autre. Et il y a eu beaucoup d'improvisation et de théâtre de rue et de déambulation où on va interagir avec le public. Et tout ça, c'est des endroits, avec l'impro, où on ne sait pas ce qui va se passer et il faut avoir confiance en soi ou confiance en le reste de l'équipe en se disant « quoi qu'il arrive, il y aura une fin heureuse ». Donc ça ouvre la créativité, c'est vraiment un endroit d'entraînement sympa. Et ça, c'est quelque chose que je fais encore régulièrement, et parfois sur des événements professionnels, parfois sur des événements plus artistiques. Par exemple, ça fait plusieurs années qu'on peut me voir au festival Bulle des Prés à la Garge de Bretagne, en octobre,
ah oui.
Avec la compagnie Artémise. Et donc c'est un endroit où on va rencontrer les auteurs, les illustrateurs, les illustratrices, et où là, le théâtre vient nourrir l'improvisation et le fait d'oser être quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup je suis partie très loin avec mon histoire.
Oui, en fait tu as répondu à ma question. Toi, tu es metteuse en scène, mais tu es toujours comédienne. C'est-à-dire que tu fais toujours de l'impro, je pense que dans ta vie, c'est sûrement un besoin d'avoir toujours ces actions. Ça t'aide encore à oser, sans doute. Et puis, je ne vais pas dire que c'est un peu comme une drogue, mais presque, parce que par exemple, pour certains, c'est le sport. Et je pense que j'ai fait un peu de théâtre et je pense que ça peut facilement devenir une drogue dans le sens où l'improvisation, par exemple, moi, je trouve ça très difficile. Hein, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Mais quand tu dis on s'appuie sur les autres, parce que l'impro, quand on ne connaît pas trop, on se dit oh là là, il faut que j'improvise tout seul devant tout le monde. Et en fait, les autres sont un appui, on n'est pas tout seul. Et donc, c'est un bel exercice parce qu'on fait confiance aux autres, mais aussi il y a cette idée de devoir être quelque part aussi spontané, de devoir réagir, réagir vite à une situation.
Oui.
Et ça peut aider professionnellement, par exemple.
Ah oui, c'est vrai que, enfin moi je me dis que la confiance qu'on met en œuvre dans l'impro finalement, et de se dire je vais toujours trouver une solution, et au pire je suis ridicule et c'est pas grave, on aura vite oublié. De prendre ce réflexe et de laisser donc la créativité venir, ça va nous aider à être aussi plus créatifs et plus détendus sur le fait de peut-être se prendre les pieds dans le tapis, dans la vie normale, si on peut dire. Donc pour moi, c'est un vrai endroit d'expérimentation et je suis contente de continuer à faire ça. Et j'ai tendance à dire finalement que, à travers mes différents métiers, je vais collectionner des histoires que je vais mettre sur scène quand je suis metteur en scène, des histoires qui vont être les histoires des gens que j'accompagne en coaching ou en formation et qui vont, si tout va bien, soit leur faire du bien, soit leur donner envie d'oser. Et avec un peu de chance, ça peut même créer du lien. Et donc là, moi, quand je vais faire du théâtre, quand c'est moi qui joue, je suis en train de cultiver une histoire qui me fait du bien, l'histoire de la créativité, de la solidarité avec l'équipe et du fait qu'il n'y a pas de risque à être soi-même, pour le dire avec des grands mots.
Donc le théâtre est un formidable outil. Alors aider les autres à oser, alors je pense que ça c'est aussi, forcément c'est le fil rouge hein, de toutes tes activités dans le coaching, on vient de te voir parce que je pense qu'il y a souvent peut-être cette question là aussi, je n'ose pas assez m'affirmer en réunion de travail, c'est du coaching professionnel hein, que tu fais aussi de vie.
En fait, on va parler de la vie des gens aussi, mais c'est souvent sur une raison professionnelle au départ.
Professionnelle à la base.
Et beaucoup des questions de « j'ai pas assez confiance en moi » ou « je ne me fais pas assez entendre en réunion », comme tu dis, ou auprès de mes équipes ou auprès de mon chef. Donc la question de la confiance et de l'expression reviennent beaucoup.
Enfin, tu es coach, donc tu rencontres individuellement des personnes. Il y a aussi « aider les autres à oser ». Moi, j'aime beaucoup les nouvelles oratrices. Parce que j'ai effectué aussi, j'ai participé aux ateliers des nouvelles oratrices. Il y a aussi cette question, donc oser prendre la parole pour la femme, les femmes. C'est une difficulté pour beaucoup d'entre nous. Les nouvelles oratrices, ça a été créé par Fanny Dufoy. Est-ce qu'on peut présenter les nouvelles oratrices?
Oui, alors les nouvelles oratrices, c'est un organisme de formation à la prise de parole et dont le concept original, c'était de proposer des cercles de formation en cercle de femmes, donc en non-mixité. Il y a aussi des formations femmes-hommes mélangées, mais on s'est rendu compte, et notamment proposées par les nouvelles oratrices, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques spécifiques à la prise de parole des femmes, qui sont en général, qui sont plus souvent coupées quand elles prennent la parole, qui se posent des questions sur la robe ou les chaussures qu'elles doivent mettre avant de prendre la parole. Peut-être que tu as le souvenir de Cécile Duflo avec sa robe à fleurs.
Une vidéo que tu nous as montrée dès le départ, en fait.
Et en fait, il y a plein d'endroits où on n'est pas exactement sur les mêmes problématiques, même sur le son de nos voix. Il se trouve que les voix aiguës et avec plus de modulation sont plus fatigantes à écouter sur le long terme qu'une voix plus grave et plus posée. Là, entre hommes et femmes, à nouveau, ça pourrait faire une bonne différence. Donc nous, on a trouvé intéressant, donc Fanny Dufour et ensuite moi qui embarquais dans l'aventure, d'accompagner les femmes spécifiquement là-dessus et aussi pour les aider à se rendre compte qu'elles avaient leur propre charisme, j'allais dire, leur propre façon de convaincre et qu'on n'était pas obligé d'adopter toujours les codes masculins et que d'avoir la larme à l'œil si je vous raconte quelque chose de triste, c'est pas grave en fait, c'est peut-être juste authentique et c'est peut-être ma sensibilité qui se montre à ce moment-là. Et il y a des façons de laisser la sensibilité passer sans que le message soit brouillé. Donc nous, on travaille sur tout ça. Et c'est un exemple, donc ça ne veut pas dire qu'on ne parle que de larmes à l'œil quand on est avec les femmes. On parle de plein d'autres choses, de convictions, d'énergie. Et ça crée vraiment dans ces groupes de femmes un soutien, une solidarité qui fait qu'elles ont partagé une belle histoire et que cette belle histoire partagée leur donne de la force pour les prochaines prises de parole.
Oui, puis ça peut être aussi de temps en temps individualisé dans le sens où on a chacune nos problématiques et on travaille dessus. Oui. Donc les nouvelles oratrices, alors est-ce que tu as, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais des astuces déjà, je dois faire une prise de parole en public, présenter, faire une présentation dans un cadre professionnel, alors déjà il y a une posture à avoir, il y a des astuces à avoir, il y a comment on commence, comment on se pose la voix, tu en as déjà parlé, comment est-ce qu'on tente de la poser.
Alors il y a beaucoup de choses et ça dépend. Ouais. Souvent, si je donne 3 conseils à quelqu'un, ça ne sera pas les mêmes 3 conseils que la personne d'à côté.
Oui.
Quelque chose qui revient beaucoup, c'est quand même que si on ne respire pas, on meurt et que souvent, quand on prend la parole, on le fait en apnée. Ou alors en ayant pris un tel grand souffle, une grande inspiration, que là aussi il y a une forme d'apnée, on a tout bloqué dans nos poumons. Donc moi, j'aime bien conseiller aux gens de commencer par poser leurs deux pieds au sol, qu'ils soient assis ou debout, et par souffler. Et ensuite, ce qu'ils vont reprendre comme air, ce sera la juste dose pour poser leur voix. Donc ça, c'est très mécanique, mais je vais commencer par poser mes pieds au sol et souffler. Et quand je vais reprendre mon air, ça sera le bon moyen de ne pas être ni en apnée, ni de parler trop aigu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui vont donc inspirer très fort et commencer à parler comme ça. Donc à la fois en apnée, avec une voix qui n'est pas la mienne. Mmh. Donc moi, je préfère proposer ça. Ce serait le premier conseil, quelque chose de physique. Le deuxième, ce serait un conseil autour de ce qu'on va faire avant la prise de parole. C'est-à-dire que c'est important, avant de prendre la parole, de savoir pourquoi je parle. Trop souvent, les gens prennent la parole parce qu'il le faut, parce que c'est la réunion où ils doivent parler, parce que c'est leur tour dans le tour de table, en se sentant pas posé la question avant de quel serait mon message clé. J'ai envie que quoi passe. Notamment les entrepreneurs avec qui je travaille parfois, entrepreneurs, entrepreneuses. Nombreux sont celles et ceux qui ne vont pas penser à redonner le nom de leur entreprise, le nom de leur marque, parce qu'ils ont oublié que pendant leur pitch ou le tour de table, en fait, le but c'était quand même qu'on les repère et qu'on les rappelle si on avait besoin d'eux. Donc, deuxième conseil, avoir son message clé bien en tête.
Très bien conseil, parce que j'ai oublié une fois.
Ça arrive à tout le monde.
Ouais, ça arrive.
On pourrait d'ailleurs dire que le troisième conseil, ça pourrait être d'être indulgent avec soi-même, parce que beaucoup de gens m'expliquent qu'ils n'ont pas été bons en prise de parole. Et quand je leur demande, très bien, qu'est-ce que tu aurais fait pour être bon ? Et soit ils ne savent pas, soit ils ont une liste hyper longue. Ah bah j'aurais pu regarder mieux les gens, mieux respirer, parler plus doucement. Ouais, donc en fait, c'est hyper difficile ce que tu te demandes. Si on fixait juste un objectif, par exemple, moi j'ai tendance à parler vite, de me dire, la prochaine fois que je prends la parole, je veille à parler plus doucement. C'est un objectif, mais peut-être que je vais être contente de moi ensuite et que ça va me permettre de rentrer dans un cercle vertueux de confiance en soi.
Objectif par objectif, on y va par étapes.
C'est ça
serait
l'idée.
La prochaine fois, je parlerai plus lentement. La prochaine fois, je vais mieux respirer. La prochaine fois, je vais regarder les gens. Voilà,
la prochaine fois, j'oserai prendre la parole parce que des fois, ça commence là, hein, c'est vrai.
Aussi, par exemple, il y a une conférence, il y a une réunion. Je me fixe l'objectif de poser une question.
Et oui. Et parfois, je travaille aussi avec des adolescents, des fois, qui ne sont pas très à l'aise à l'idée de prendre la parole au collège ou au lycée. Et parfois, on se met d'accord sur des questions faciles, dont ils connaissent peut-être même la réponse, mais qu'ils vont poser au prochain cours, juste pour s'entraîner à faire entendre leur voix au milieu du cours.
Voilà, pour que soi-même, ils s'habituent à entendre leur voix déjà.
Ouais, c'est pas si facile.
Et puis qu'ils se rendent compte que finalement, on va bien leur répondre et qu'il n'y aura pas toute la classe à se retourner ou à être étonné.
Et le grand stress, hein, c'est celui-là, c'est d'être seul face à des gens qui nous regardent. C'est un stress assez normal finalement. Donc, on est nombreux à avoir peur de ça parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. C'est une des peurs les plus partagées au monde, de prendre la parole en public et d'être seul face à un groupe. Donc forcément, si je suis au collège, c'est décuplé. Et moi, j'aime bien travailler là-dessus parce que avec des petits pas, ça peut changer les choses.
Ouais, c'est un très bon exemple. Donc au niveau du collège, tu travailles aussi beaucoup avec des collégiens, des adolescents qui viennent te voir ou...
Oui, je dirais pas beaucoup. C'est de temps en temps. Et puis parce que les adolescents, il faut qu'ils aient envie de faire ce travail-là aussi, qu'ils soient prêts à me raconter un peu leur vie alors qu'on se connaît pas. Donc il y a toujours un ou deux ados dans mon cabinet à chaque période. Et puis il m'est arrivé de travailler aussi avec la mission locale, donc avec des groupes cette fois.
Ah ouais.
Et dans les groupes, là c'est vraiment l'outil théâtral qui nous permet de travailler cette prise de parole et cette prise de place dans le groupe. J'ai un peu envie d'ajouter un dernier conseil, et tu verras s'il te parle, mais c'est celui que j'aime bien appeler « se dérouler le tapis rouge ». C'est une collègue des Nouvelles Oratrices qui dit ça beaucoup. En fait, se dérouler le tapis rouge, c'est ne pas prendre la parole à un moment où les gens ne m'écoutent pas, où j'aurais voulu boire un verre d'eau, mais je ne l'ai pas fait, où il y a trop de bruit, où je suis mal installée. Donc si j'ai besoin de me lever pour prendre la parole, si j'ai besoin d'obtenir d'abord le silence, si dans une situation de conférence, j'ai besoin d'avoir un pupitre pour avoir mon texte, oser, là aussi, demander toutes ces choses-là pour avoir des chances que mon message passe mieux. Donc là, c'est plus pour les prises de parole professionnelles. Mais beaucoup de gens me disent « Bah oui, moi, je suis pas à l'aise quand je parle et que je suis assise. Bah, pourquoi tu te lèves pas ?» Ah, c'est vrai. On pense pas à se mettre au centre de notre prise de parole alors que finalement, c'est vous. Hein. C'est vous la star si vous parlez. Et vous avez le droit de ne pas parler exactement comme la personne qui a parlé avant vous ou après vous, puisque c'est votre moment.
Oser se mettre à l'aise avant, oser bouger les chaises,
c'est ça.
Créer une ambiance, l'ambiance que vous souhaitez. Donc oser prendre la parole pour les femmes, je pense que c'est une libération aussi quelque part. Enfin, on le voit bien en ce moment, donc je pense que ça te motive aussi pour l'avancée de la société, tout simplement.
Oui, moi j'ai l'impression.
Les nouvelles oratrices, ça aide aussi à cela. Aider chaque femme individuellement, mais aussi il y a un esprit collectif derrière.
Et puis moi, ce que j'aime bien à travers cette formation, le cercle des nouvelles oratrices, c'est que ces femmes s'aperçoivent qu'elles ont deux possibilités. Celle de juger chaque prise de parole avec beaucoup de sévérité, et notamment les prises de parole des copines ou des collègues femmes, ou alors de chercher ce qui fonctionne bien et de voir en quoi elles pourraient s'en inspirer. Et en fait, en cherchant le côté positif, elles s'aperçoivent qu'il y a aussi des choses positives dans ce qu'elles font et qu'elles peuvent s'appuyer là-dessus et aussi se soutenir les unes les autres. Mais on est dans un monde où parfois c'est la concurrence qui gagne. Donc souvent, un des enjeux de la formation, c'est d'enlever nos lunettes critiques de concurrence permanente pour aller chercher, au contraire, comment on peut s'inspirer des autres. Et ça change tout, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus détendu quand je regarde mes collègues de formation en cherchant ce qu'elles font de bien, plutôt qu'en cherchant à les piéger. Et en plus, ça se sent pour la personne qui prend la parole, qui va avoir plus confiance en elle, soutenue par le groupe.
Oui, parce que dans le cadre des nouvelles oratrices, on s'entraide.
On pratique.
On pratique. Et puis, on annonce ce qu'on a trouvé de positif chez chacune d'entre nous. Donc, c'est vraiment une réflexion collective. Donc, les nouvelles oratrices, je rappelle, cela a été créé par Fanny Dufour. Et les nouvelles oratrices, on peut te contacter si on souhaite
Il y a le site des nouvelles oratrices.
Participer à un cercle.
Voilà. Et on peut aussi me contacter directement si on est sur la région de Vitré.
Sur la région de Vitré. Et Mon Job de Sens aussi, on n'en a pas encore parlé, mais tu travailles aussi pour Mon Job de Sens. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui a été créé dans les environs.
Oui, alors, les nouvelles oratrices, ça date de 2020 sur Rennes. Mon Job de Sens, c'est 2017 et c'était dans toute la France, puisque la fondatrice...
C'est nationale.
Elle est près de Marseille et il y a des coachs dans toute la France. Et Mon Job de Sens, en fait, c'est un organisme de formation aussi, qui fait notamment des bilans de compétences pour aider les gens à trouver leur place. Et souvent, les gens qui viennent nous voir, ils souhaitent avoir un métier dans lequel ils agissent pour un monde plus solidaire et plus écologique. Et c'est ça notre vocation, j'allais dire. Les aider à trouver une place pour que, sur leurs heures de bureau, ils changent le monde. On est un peu utopiste, mais on l'assume très bien.
Et j'ai noté mettre des mots sur ce que l'on vit. Alors je pense que tu aides aussi les autres à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que des fois, on ne se sent pas très bien dans sa situation professionnelle, mais on ne sait pas exactement ce qui ne va pas. Et aussi, faire appel à une coach ou à Mon Job de Sens, ça permet de mettre des mots, de s'exprimer aussi.
Oui.
Là, on est toujours dans oser la parole, c'est-à-dire tenter de... on a besoin d'une aide pour l'expression, pour y voir plus clair.
Oser partager. On parlait des femmes et de la prise de parole des femmes. J'accompagne aussi des hommes et souvent, ça dépend de leur âge et de comment ils ont été éduqués, mais on leur a moins donné accès au fait de parler de leurs émotions. Hein, souvent, nous, on nous dit qu'on est bavarde et il faudrait qu'on parle moins, par exemple. Mais les hommes, on va plutôt leur dire qu'il ne faut pas pleurer parce qu'il faut qu'ils soient forts et puis qu'ils ne sont quand même pas tristes pour telle ou telle raison. Donc, d'avoir un espace où on peut dire là, en fait, ça m'a touché, ça m'a ému, ça m'a rendu triste, et de mettre des mots là-dessus, c'est la première chose qu'on propose, nous, en fait, en accompagnement, en coaching. Et après, ces choses-là qu'on va dire, les mots qu'on va poser, ça peut rester entre le coach et la personne qui l'accompagne, qui est accompagnée. Mais parfois certaines personnes choisissent d'en faire autre chose et donc parmi les gens que j'accompagne, il y en a même qui choisissent de créer des spectacles ou des conférences pour dire ce qui a été important pour elles, pour eux. Donc en ce moment j'accompagne une personne qui travaille sur son récit de vie, c'est une personne qui a été adoptée et qui est née à l'étranger, qui a été adoptée en France et qui a reparcouru toute son histoire et c'était important pour elle de mettre des mots et de faire entendre ses mots. Et moi, je suis là pour l'aider à ça.
Et elle souhaite créer ensuite une forme théâtrale,
parce qu'il y a aussi une réflexion. Cette personne a été accompagnée aussi par une personne avec qui je travaille, qui s'appelle Corinne Lepage, qui est éducatrice populaire, autrice et comédienne. Et Corinne, comme elle est éducatrice populaire, elle a aidé les gens qui travaillaient sur leur récit de vie à avoir une vision politique de ce qui se passait, et se dire, ok, l'adoption, c'est mon adoption, c'est ma vie, mais ça raconte quoi sur l'adoption en général? Ça raconte quoi sur le fait d'être une petite fille à la peau plus foncée dans une région où les gens ont la peau plus blanche? Et donc, cette prise de parole, elle est importante personnellement, mais peut-être aussi politiquement ou pour la société.
Et ensuite, elle va pouvoir effectuer sa représentation théâtrale face à un public, c'est déjà précis?
Oui. Alors en fait, il y a déjà eu une lecture qui a été faite à Rennes, au CRIDEV, qui est donc une association basée avenue Janvier et qui lutte notamment contre les j'allais dire les prises de pouvoir, les dominations, qui a beaucoup de réflexions, cette association, sur les relations entre les pays et les pays qui ont été parfois colonisés et les pays colonisateurs. Donc ça s'inscrivait bien dans ce lieu-là. Et donc ça, ce premier spectacle dont je parle, qui est en devenir, qui a donc été écrit par Dania, il a été présenté sous forme de lecture et on va encore travailler dessus pour que ça devienne un spectacle théâtral.
Ce projet intéressant, elle a osé.
Et, oui, complètement. Et en fait, c'est oser se mettre au centre aussi. Et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Hein.
Qu'est-ce qu'on va penser?
Le regard des autres.
Le regard des autres. Qu'est-ce que je vais lire dans les yeux des autres?
Oui, parce que on a quand même chez nous un côté obscur, si je paraphrase. Si je paraphrase George Lucas, on a un côté obscur en nous qui va nous faire voir plus gros tout ce qui est négatif. Donc si pendant ma prise de parole, et ça c'est arrivé moi, que je sois sur scène et qu'il y ait des gens qui s'endorment au premier rang, ça arrive fois. Et, là je pense à quelqu'un qui revenait d'avion du bout du monde, il s'est endormi, il était très honteux après.
La raison était extérieure.
Voilà, c'était pas nous le problème. N'empêche que forcément on va se dire, oh là là, on doit être nul, il s'endort, il s'ennuie. Ça c'est le côté obscur. Alors qu'en fait, autour, là, il y avait 60 personnes qui étaient bien réveillées, qui étaient avec nous. Donc là, il y a un exercice à faire pour chacun d'entre nous, qui est de se concentrer sur le positif, d'aller remettre du positif, parce que spontanément, c'est le côté obscur qui nous emmène à chaque fois. Je vous encourage à regarder le côté lumineux.
Voilà.
Ça va vous soutenir.
Allons dans la lumière. Alors, une personnalité qui ose, qui a osé, qui t'a marqué, qui te marque, d'après toi, j'avais envie de te poser cette question.
Alors, je suis peut-être influencée par nos conversations, mais finalement, la personnalité, c'est une femme, elle fait du théâtre, elle ose prendre la parole. C'est Andrea Bescon, qui est comédienne, metteur en scène, réalisatrice, autrice. Et moi, je l'ai découverte au moment où elle a sorti son seul en scène, Les Chatouilles ou La Danse de la Colère, qui était en fait autobiographique et où elle présentait son histoire de petite fille qui avait été abusée par un ami de la famille. Donc, un sujet pas drôle du tout. Mais où moi je me suis dit que l'art c'est fait pour ça, c'est fait pour dire les émotions, les partager et les consoler même. Parce que pour moi c'était vraiment un exercice à la fois qui permettait d'en faire entendre la voix de gens qui ne s'étaient pas fait entendre avant. Elle a fait du bien à beaucoup de monde en faisant ça. Mais aussi de se réconcilier avec la petite fille qu'elle avait été. Et aujourd'hui elle continue. Là, elle a sorti une série il y a peu de temps qui parle aussi de sujets sérieux, mais je crois que c'est vraiment l'art au service d'une parole qui se libère.
Eh, bon choix.
J'admire.
Eh ben, merci beaucoup, Clémence. Alors, aussi, j'ai noté pour terminer, il y a la prise de parole, oser aussi autrement sans parole, quelles autres possibilités? Est-ce que toi, tu as des idées? Parce que la parole est libératrice. Après, il peut y avoir aussi d'autres possibilités. Tu parles de l'art. L'art, c'est large. Je sais pas, moi, je pense aussi tout simplement à l'écriture.
Oui.
On peut dire que c'est une autre forme de prise de parole, mais
oui, complètement.
Le dessin, enfin n'importe. Voilà.
En fait, moi, de manière générale, j'ai l'impression que souvent, on se dit « Oh là là, ça va être difficile », quand c'est des choses qu'on a regardées en entier. Et par exemple, si je devais demain faire un spectacle, je me dirais « Oh là là, ça fait peut-être beaucoup ». Mais en fait, dans ce spectacle, comme tu le dis, il y a des choses qui ont été écrites, il y a des choses peut-être de la musique, des choses qui ont été jouées sur scène, etc. Donc moi, j'aime bien l'idée de rapetisser, de prendre la plus petite brique possible. Et donc, je peux en effet oser, juste en osant mettre un chapeau que j'aime bien, même si c'est un chapeau à fleurs et que c'est un peu atypique dans les rues de Vitré. Je peux oser en écrivant quelque chose que j'oserais peut-être pas dire, mais si je l'ai écrit, j'ai déjà fait un premier pas. Et dans les stages que je propose, il y a des stages autour du clown, où quand on fait de l'improvisation, moi j'aime beaucoup faire des premiers ateliers d'improvisation où il n'y a pas de mots. Donc oser, ça va être oser jouer ensemble sans se parler en fait. c'est peut-être plus dur, c'est peut-être plus simple. En tout cas, ça permet d'explorer différents chemins. Donc, le chant, la danse. Et là, les prochains stages qu'on aura l'occasion de faire, ça sera plutôt autour de la voix, du chant. Donc, sans avoir à décider ce qu'on va dire, on va plutôt laisser nos voix se balader.
Alors justement, ton actualité pour le mois d'avril, est-ce qu'on peut en parler ? Je pense que ce podcast va être diffusé certainement courant mois de mars, fin mars. Alors, le mois d'avril, comment est-ce que tu le perçois ? Est-ce qu'il y a des ateliers que tu peux nous proposer ?
Alors, dans notre thème, là, finalement, on a un stage qui s'appelle « Oser chanter sur scène », celui dont tu parlais tout à l'heure, avec Manuela Harvis, qui est donc une chanteuse qui est basée dans la région de Tours, qui vient nous accompagner pour ça. Et habituellement, on le fait sur 2 jours, et là, il y aura une journée, le 13 avril, où on va faire ce stage avec un musicien qui nous accompagne et ça sera suivi par des ateliers. Donc vous pouvez choisir de venir faire le stage ou les ateliers ou tout à la fois. Et dans ces ateliers, il y aura un atelier autour du chant de mantra. Donc tu vois, c'est les chants que tu vas répéter en boucle. Et en les répétant en boucle, en fait, il y a quelque chose du lâcher prise qui se met en place et on ne cherche pas à faire joli. On cherche juste à être dans quelque chose plus d'un état méditatif. Et le troisième atelier, ça sera plutôt autour du chant intuitif, de l'improvisation chantée. Et donc, première journée de stage avec Manuela Harvis, chant de mantra avec Mibel Andino et improvisation vocale avec Oriana Franck. Donc, 3 chanteuses très différentes pour une journée autour de la voix.
Une journée complète.
Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auront le courage de faire les 3, mais moi, je fais les 3.
Ah, bravo.
Forcément, j'accompagne.
Tu vas oser faire les 3.
Je vais oser faire les 3, même avec une grande joie.
Merci beaucoup. Il faut se rendre sur ton site internet, par exemple. Tu as souvent une actualité, tu as vraiment plusieurs casquettes, donc il ne faut pas hésiter à te contacter, à Clémence Aurore, ou te contacter comment ?
Oui, on peut me trouver facilement via le site, en effet, c'est clémenceaurore.com, facile. Je réponds volontiers aussi sur LinkedIn, où on me trouve aussi sous Clémence Aurore. Et j'ai la chance dans cette jolie ville de Vitré de passer pas mal de temps dans des lieux où le réseau social est physique et réel, donc vous pouvez me croiser aussi au Café Bulle où ont lieu la majorité des stages pour se voir en vrai.
Exactement. Merci beaucoup à toi.
Merci.
C'était le podcast Comment osez-vous ? Merci de votre écoute. Retrouvez toutes les informations sur ce podcast sur les réseaux sociaux de Poséo, Instagram par exemple. poseo.bzh. À bientôt et n'oubliez pas d'oser.